les 20 ans de l'OQAI, apprendre dans un environnement sain et confortable.
Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième session consacrée aux lieux d'enseignement dans le cadre du colloque organisé à l'occasion des 20 ans de l'OQAI. Une mauvaise qualité de l'air intérieur qui plus est dans un bâtiment aussi emblématique qu'une école ou tout autre lieu d'enseignement d'ailleurs a des conséquences inévitables, on le sait, sur la santé, l'apprentissage et la concentration, notamment chez un public sensible comme les enfants. Et tout parent, j'en suis un, est en droit d'exiger que son enfant suive et apprenne dans un environnement sain et confortable, et bien sûr sans danger. Le sujet n'est pas nouveau. Le plan d'action sur la qualité de l'air intérieur, lancé en 2013 par les ministères de l'Environnement et de la Santé, prévoyait la mise en place d'actions à court, moyen et long terme pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans les lieux clos et a fortiori dans les établissements recevant un jeune public. La surveillance de la qualité de l'air intérieur a ainsi été rendue obligatoire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les crèches depuis le 1er janvier 2018 et dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées depuis le 1er janvier 2020. Avec cette session, apprendre dans un environnement sain et confortable, je suis ravie d'avoir ainsi à mes côtés pour parler de cette qualité de l'air intérieur dans les établissements d'enseignement Claire Dassonville. Bonjour Claire, vous êtes chef de projet au CSTB et coordinatrice de la campagne École de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous allez nous livrer les résultats de la campagne nationale École, donc de l'OQAI. Nous avons également à distance, nous retrouverons Marianne Stranger qui est senior researcher en mesure de la qualité de l'air intérieur au VITO, qui est un organisme de recherche belge, flamand, indépendant dans le domaine des technologies propres et du développement durable, qui nous présentera ensuite une mise en perspective européenne. Et nous discuterons ensuite en plateau avec Marion Hulin, épidémiologiste en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs à Santé publique France, et Christophe Stéphaniac, vous êtes responsable métier hygiène santé chez Filiance, organisme de bureau de contrôle. Mais donc, comme je vous le disais, pour commencer, Madame Dassonville, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et vous allez donc nous présenter la campagne nationale École de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. C'est à vous.
Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, la campagne nationale dans les écoles s'est déroulée entre 2013 et 2017 et avait pour objectif de faire un état des lieux de la qualité de l'air dans les écoles maternelles et élémentaires de France métropolitaine continentale au travers de la mesure de polluants gazeux particulières, mais aussi de décrire les systèmes et équipements dans ces établissements ainsi que leurs usages, et enfin de décrire le confort thermique, acoustique et visuelle des enseignants et des enfants dans ces écoles. Alors, pour cela, il a été tiré au sort un échantillon de 300 écoles. À partir du fichier du ministère de l'Éducation nationale à la rentrée 2009 qui recensait toutes les écoles maternelles et élémentaires. Ce tirage au sort a permis d'avoir un échantillon représentatif du parc de bâtiments scolaires en France. Les mesures ont été faites dans 600 salles de classe sur une semaine en période scolaire. Et voyez sur la photo centrale du diaporama un portoir, comme vous en a déjà présenté Olivier Ramallo. En fait, tous nos matériels de mesure sont disposés dans ces portoirs. Il a été mesuré en continu, donc sur la semaine d'enquête, des composés gazeux, hein, dans l'air, donc des composés organiques volatiles, des aldéhydes, mais aussi des composés organiques semi-volatiles. Olivier vous les a présentés aussi. Hein. Ils se répartissent dans l'air à la fois en phase gazeuse et sur les particules de l'air. Ils sont un petit peu différents. Des particules fines PM2.5. Il a aussi été mesuré le dioxyde de carbone, la température, l'humidité relative, des particules en nombre. On a compté le nombre des particules en fonction de leur taille. Et puis tout en haut, vous voyez du portoir, un sonomètre qui a mesuré le niveau de bruit dans les salles de classe. Il a aussi été fait des prélèvements de poussière déposée au sol par lingette pour mesurer le plomb et par aspirateur pour mesurer les composés organiques semi-volatiles et les métaux. Et puis tout en bas, vous voyez une photo avec des cibles, là on appelle ça des cibles. Il a été mesuré aussi l'éclairement, c'est-à-dire la quantité de lumière reçue par les tables et le tableau dans les salles de classe. Les champs électromagnétiques, les radiofréquences ont été mesurées aussi par l'Agence nationale des fréquences. Et puis, accompagnant toutes ces mesures, des questionnaires descriptifs précis des salles de classe, des bâtiments qui les abritaient, mais aussi de l'environnement extérieur, ont été renseignés par les enquêteurs, les gestionnaires des établissements, les directeurs d'établissements. Et les enseignants nous ont enseigné ce qu'on appelle un budget espace-temps activité, c'est-à-dire l'occupation et les activités des salles dans la salle de classe sur un pas de temps de 10 minutes tous les jours. 30 minutes, pardon. Voilà, ils ont aussi renseigné un questionnaire pour évaluer leur perception du confort thermique, acoustique et visuel.
Donc comme tout à l'heure dans les logements, une partie mesure propre et une partie questionnaire.
Tout à fait. Alors, voyons maintenant les résultats. Donc voyons maintenant les composés gazeux hein, dont je vous ai déjà parlé, les composés organiques volatiles et les aldéhydes au travers de deux polluants. Qui sont des polluants qui ont des valeurs de référence réglementaires. Donc le benzène et le formaldéhyde. Le benzène provient essentiellement dans les salles de classe du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur, à proximité au trafic routier ou à des sources industrielles. Voilà. En revanche, le formaldéhyde n'a quasiment que des sources intérieures avec les matériaux de construction, décoration, le mobilier en bois aggloméré, d'autant plus qu'ils sont récents, hein, mais aussi les produits ménagers, voire les fournitures scolaires. On peut trouver du formaldéhyde dans certaines fournitures scolaires. Alors, pour ces deux polluants ont été détectés dans toutes les salles de classe des écoles et la valeur limite réglementaire qui est indiquée en bas de chaque diapo, vous voyez les VLR, n'était pas dépassée. Donc ces valeurs limites, c'est une valeur au-delà de laquelle des actions de correction doivent être menées.
Donc c'est plutôt rassurant là.
Pardon ?
C'est plutôt rassurant.
Oui, tout à fait. En revanche, donc les valeurs guides étaient dépassées dans un certain nombre d'écoles. Vous voyez, pour le benzène, dans 15% des écoles, il y avait au moins une salle de classe dont la concentration dans l'air dépassait la valeur guide de 2 microgrammes par mètre cube. Et c'était 23% des écoles, il y a au moins une salle de classe dans laquelle la concentration dépassait 30 microgrammes par mètre cube. Ça passe ? Excusez-moi. Alors, en revanche, nous avons identifié 4 points de vigilance. Le premier point était les particules fines qui ont été détectées dans toutes les salles de classe. Avec une médiane. Donc la médiane, c'est la valeur qui va séparer l'échantillon 2 de 18 microgrammes par mètre cube. Et dans la quasi-totalité des écoles, il y avait au moins une salle de classe dont la concentration dans l'air dépassait la valeur guide de l'OMS, qui a été récemment mise à jour, comme l'a précisé Marianne Herra tout à l'heure. Les particules fines dans les salles de classe viennent essentiellement de l'extérieur, puisqu'elles sont normalement issues des combustions. Il y a peu de sources de combustion dans les salles de classe.
Oui, ouais. Donc en fait, c'est des choses qui viennent des polluants de l'extérieur qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur.
Voilà, transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur. Le deuxième point de vigilance concerne les composés organiques semi-volatiles. Donc ce sont des composés, comme je vous disais, qui se répartissent à la fois dans la phase particulière et dans la phase gazeuse. Et c'est pour ça aussi qu'on les retrouve dans la poussière déposée. Ça a été évoqué ce matin en introduction. Nous en avons mesuré 46 dans l'air. Et sur les 46 dans l'air, 21 étaient retrouvés dans l'air des salles de classe de la moitié des écoles. Et sur ces 21, 16 étaient retrouvés dans l'air de la quasi-totalité des salles de classe des écoles. Et parmi ces composés, on retrouve des phtalates, donc qui sont des plastifiants rentrant dans de nombreux produits de consommation courante, hein, et notamment tout ce qui est matériaux plastiques, auxquels ils vont donner la souplesse, mais aussi des produits d'entretien, des cosmétiques aussi, hein. Voilà. Donc ces phtalates sont vraiment ubiquitaires dans l'air, mais aussi dans la poussière déposée. On retrouve aussi des pesticides, dont deux pesticides organochlorés, le lindane et son isomère. Donc lindane a été très utilisé jusqu'en 1998 en tant qu'insecticide dans l'agriculture, mais aussi pour le traitement du bois dans les bâtiments et en tant que anti-poux, par exemple, pour un usage...
Ah oui, ça, je peux vous dire qu'on en utilise beaucoup, des anti-poux, quand ils sont à l'école.
Oui, alors maintenant, il s'est interdit, mais c'est un composé très rémanent, donc on le retrouve aussi dans l'air et la poussière.
Et c'est ça, il faut vraiment faire attention à tous les objets qui peuvent entrer, donc les stylos, etc. Tout ça, ça apporte aussi un certain type de composants que vous pouvez retrouver dans vos...
Tout à fait, ça peut être une source de substances qu'on peut retrouver dans l'air, mais aussi dans la poussière déposée. On a retrouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, Olivier en a parlé tout à l'heure, ils proviennent des combustions, surtout incomplètes. Donc là, le trafic routier, par exemple, l'incinération d'ordures ménagères aussi, ça peut en produire. Donc là, ils proviennent, dans les salles de classe, essentiellement aussi du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur. Et puis, des muscles, des substances odorantes qu'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques, mais aussi d'entretien, qui vont donner de l'odeur. Voilà. Et vous voyez que dans 25 composés sur les 46 sont retrouvés dans l'air des salles de classe de moins de la moitié des écoles, et il y en a 17, tout en bas hein, du graphe, qui sont très peu détectés. Donc là, on a la majorité des pesticides, et puis dont les pesticides pyréthrinoïdes, qui sont des dérivés du pyrètre, voilà, qui sont très utilisés. Mais qu'on a très peu détecté, nous, dans l'air et dans la poussière. Et puis, on retrouve des retardateurs de flamme, bromés. Donc là, ce sont des substances qui vont imprégner nos équipements électriques et électroniques pour diminuer leur inflammabilité. D'accord. Là aussi, nous, on les a très peu retrouvés dans la poussière et l'air des écoles. Alors, le troisième point de vigilance, c'est le plomb dans les peintures. Puisque nous avons observé que 15% des écoles avaient au moins un élément dégradé avec une concentration en plomb supérieure à 1 mg par centimètre carré. Alors, ce n'est pas un seuil de référence sanitaire, c'est un seuil qui va différencier en fait les éléments du bâtiment qui vont devoir faire l'objet de travaux pour remédier, pour qu'ils ne soient plus dégradés, si vous voulez. Parce que la dégradation va générer des écailles, et les écailles contenant de la peinture en plomb vont contaminer la poussière.
Parce qu'on le rappelle, oui, c'est vrai que c'était une utilisation de ce type de peinture qui a été très très faite à un moment donné, qui maintenant, heureusement, on sait qu'il ne faut plus s'en servir, mais malheureusement, il reste des traces.
Oui, alors ça concerne souvent le bâti ancien.
Bien sûr.
Voilà. Mmh. Alors, voyez sur le camembert que la majorité des mesures concernaient les bâtis de portes, de fenêtres et d'ouvrants qui étaient en bois, ainsi que les peintures et puis des murs, des plinthes. Voilà. Le dernier point étant le confinement de l'air. Donc, le confinement de l'air va caractériser le renouvellement de l'air d'une pièce. Et le renouvellement de l'air est essentiel puisqu'il va permettre d'évacuer l'air chargé de pollution et d'humidité. Il est mesuré à partir du dioxyde de carbone émis par la respiration des personnes présentes dans une pièce. Et nous l'avons évalué avec un indice, l'indice ICONE, construit par le CSTB, qui est un indice qui va tenir compte à la fois des fréquences de situation de confinement et de leur intensité par rapport à deux seuils, 1000 et 1700 ppm. Donc les concentrations vont se répartir dans ces catégories, dans les trois catégories. Cet indice est en 6 classes, de 0, confinement nul, à 5, confinement extrême. Là, le renouvellement de l'air est très insuffisant. Donc vous voyez que 4 écoles sur 10 avaient une salle de classe avec un indice ICONE égal à 4 ou 5, très élevé à l'extrême. Donc un renouvellement de l'air très insuffisant. Certainement qu'actuellement, cette répartition aurait changé avec la mise en place des protocoles d'aération dans les salles de classe liées à la crise de la Covid. Et puis la mise à disposition de dispositifs de mesure de CO2 avec un indicateur lumineux qui va indiquer à l'enseignant quand ouvrir la fenêtre.
Oui, ça se répand quand même dans de nombreuses classes maintenant, cet indicateur de CO2, et ça le mérite au moins de forcer à l'action. Enfin, on voit, il y a une alarme.
Ça permet de visualiser quand ouvrir la fenêtre, mais aussi quand la refermer.
Et quand la refermer, bien sûr.
Alors, dernière diapositive, nous avons poursuivi nos analyses statistiques. Nous avons voulu étudier la multipollution. Donc, c'est-à-dire les mélanges de polluants. Les mélanges de polluants et... Ah, je suis allée trop vite. Les mélanges de polluants, et nous avons voulu aussi voir s'il y avait des caractéristiques des écoles associées à ces mélanges de polluants. Décidément, je ne vais pas y arriver.
Voilà.
Alors, voilà, c'est ça. Donc, nous avons utilisé des méthodes statistiques dites exploratoires multidimensionnelles, hein, des méthodes de classification. Et on a obtenu 5 groupes de salles de classe. Le premier, qui est en rouge sur la diapositive, qui est dit multipollué dans l'air et la poussière. C'est-à-dire que là, les moyennes des concentrations de tout ce qu'on a mesuré, dans l'air et la poussière, était supérieure dans ce groupe par rapport à l'échantillon total de salles de classe. Et là, les bâtiments sont plutôt construits entre 1968 et 1981, plus fréquemment sans système de ventilation, avec des signes d'humidité visibles plus fréquents. Et puis, ils ont été réhabilités dans les 10 ans plus fréquemment, et puis les salles de classe ont plus fréquemment un parquet en bois. Vous avez en vert tout en bas les salles de classe multipolluées dans l'air. C'est-à-dire là, seules les concentrations mesurées dans l'air, en moyenne, étaient supérieures à l'échantillon total. Donc là, ce sont préférentiellement des écoles élémentaires urbaines, construites avant 1948, hein, du bâti ancien, sans système de ventilation. Et on avait un icône extrême, plus fréquent aussi dans ces salles de classe, avec une présence de parquet liée au bâti ancien. Le troisième groupe en bleu, ce sont les classes qui étaient multipolées uniquement dans la poussière déposée. Et là, ce sont plutôt des maternelles en zone, en climat méditerranéen, avec un nettoyage humide du sol quotidien plus fréquent que dans les autres classes. Et puis en gris, on a un groupe qui est dit monopolué par les phtalates. Là, seuls les phtalates dans l'air et la poussière avaient des concentrations plus élevées. Et là, vous voyez, c'était des écoles récentes avec quasiment que des sols plastiques au sol, donc liés aux phtalates, et présentant un système de ventilation. Et enfin, le dernier groupe, peu pollué dans l'air et la poussière. Donc là, c'était des écoles construites plutôt récentes, hein, après 82, maternelles, rurales, avec un système de ventilation. Donc on voit bien l'impact du système de ventilation, donc du renouvellement de l'air sur la multipollution.
C'est passionnant, hein, ce graphe-là, de voir ces grands groupes, parce qu'on a vraiment chaque impact, et ça permet vraiment d'avoir une photographie intéressante des typologies de polluants en fonction de la typologie du bâtiment.
C'est ça, les déterminants de ces mélanges de polluants. Oui, tout à fait. En conclusion, cette campagne d'envergure, quand même, a apporté vraiment de très précieuses connaissances, informations sur l'environnement de l'enfant à l'école. Et les données ne sont pas encore toutes traitées, puisqu'il reste les données de confort thermique, visuel et acoustique, ainsi que la perception des enseignants, et elles vont l'être prochainement.
Bon, voilà. Écoutez, on attend ça avec impatience, hein, parce que c'était vraiment, c'est vraiment passionnant, parce que ça nous permet vraiment d'avoir cette photographie, est extrêmement pertinente. Alors, je vais me tourner vers mes écrans, donc nous devrions avoir Madame Stranger qui devrait nous rejoindre. Voilà, je vous vois. Bonjour madame. Vous faites de la recherche dans le domaine de l'air intérieur depuis plus de 20 ans. Quels enseignements sur la qualité de l'air intérieur peuvent être mis en perspective au niveau européen? Peut-être, j'ai oublié de vous présenter peut-être un petit peu plus. Vous avez commencé votre activité à l'université d'Anvers. Vous avez fait des études de doctorat, un doctorat au sujet de l'air intérieur dans les écoles et les logements. Et depuis 2008, donc, vous travaillez au VITO, où vous êtes ingénieur d'études sur la qualité de l'air intérieur, responsable de l'équipe Indoor Air Quality. Voilà, vous avez notamment organisé, coordonné et collaboré dans plusieurs études et campagnes régionales, nationales et internationales sur l'air d'intérieur. Écoutez, madame, donc quels échos vous avez de ces travaux de l'OQAI là où vous êtes?
Excusez-moi,
je vous entends bien. Allez-y. Bonjour, madame.
La connexion était mauvaise.
Allez-y, madame. Je vous donnais la parole justement. Quels enjeux et quels échos, quelles perspectives au niveau européen vous pouvez faire de ces travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur?
J'avais prévu une présentation. Je ne sais pas si vous allez la montrer.
Elle arrive.
D'accord. Merci beaucoup.
Elle est en train de se. Voilà. D'accord. La voici. On vous écoute.
Le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand honneur de vous pouvoir vous parler sur l'air intérieur des écoles. Suivant. Problème, c'est que les enfants, ils passent en moyenne 90% du temps à l'intérieur en Europe. Et c'est à vrai dire, pendant un jour de semaine, ils passent au moins 27% de la journée à l'école. Alors, c'est pour ça que l'école, évidemment, c'est une grande source d'exposition pour les enfants. Suivant. Quand on voit en Europe et que l'on sait que, comme la dame avant qui parlait juste avant moi, avait dit, l'environnement extérieur est un grand déterminant aussi de l'air intérieur. Il y a aussi le bâtiment et la ventilation et les sources intérieures qui détermine l'air intérieur. Et quand on voit en Europe, il faut dire qu'il y a une grande variabilité de bâtiments. Et cette variabilité de bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a une différente ventilation, aération, la performance énergétique de tous les bâtiments en Europe, c'est différent. Il y a aussi les rénovations des bâtiments pour la prestation énergétique. Il y a aussi évidemment les défauts des rénovations. C'est vrai que quand on voit en Europe, il y a une grande variabilité d'environnement. Ce que vous avez en France déjà entre le nord et le sud, en Europe, c'est encore Pire, il y a les zones rurales, urbaines, industrielles, agriculture, et tout ça dépend du type d'industrie, agriculture, qui a un effet sur l'air intérieur. On voit aussi qu'il y a une grande variabilité d'habitudes en Europe. Il y a eu le projet européen EFFECT il y a quelques années, et là on a fait un sondage entre pour estimer les motivations que les gens ont quand ils achètent des produits de nettoyage. Et on a vu que plus qu'on va au nord, plus dans le nord, plus que les gens ils choisissent des produits qui sont bons pour la santé ou pas mauvais pour la santé, qui sont efficaces, plus qu'on passe au sud et vers l'ouest, on voit que les gens ils choisissent des produits qui sont bons. Et on voit la forme du bouteille, de la bouteille et tout ça. Alors il y a quand même une différence des différentes habitudes en Europe. Il y a aussi des différentes dimensions de classe, des différents concepts pédagogiques, et aussi le matériel didactique qui diffère en Europe. De l'un côté, il y a les tableaux intelligents et les ordinateurs. De l'autre côté, il y a les tableaux avec la craie de classe. Suivant, s'il vous plaît. Et en Europe, il y a eu plusieurs projets européens sur l'air intérieur. Il y en a qui sont organisés pour avoir de l'information sur l'air intérieur plus en moyenne dans l'Europe. Il y a aussi les études qui sont plus pour estimer, pour donner des guides, pour prendre faire des mesurements pour les politiques et tout ça. Ce que je voulais vous parler voulais vous parler aujourd'hui sur la ventilation des écoles en Europe, l'environnement intérieur des écoles et les évolutions du contexte d'école suivant. Quand on regarde la ventilation pré-pandémie, il faut dire qu'après la pandémie, comme partout en Europe probablement, il y a eu beaucoup de changes de l'attitude de ventilation. Mais quand on voit pré-pandémie, on peut voir que la concentration de CO2 était plutôt élevée. Ici, chez nous aussi, en Flandre, ici, quand on regarde, on voit des concentrations qui dépassent les 2000 ppm, même dépassées ou approchent les 5000 ppm CO2. C'est comme un mot. On sait que on recommande 900 ppm de CO2 pour les environnements intérieurs. Tout a changé quand on a commencé à installer dans les écoles des systèmes mécaniques, de ventilation mécanique. On voit quand même, quand on fait une comparaison là au droit d'une ventilation d'une classe non ventilée mécaniquement et deux qui sont ventilées mécaniquement, on voit bien la différence et on voit que ça s'améliore beaucoup. Mais quand même, la ligne rouge et vert, ce sont deux salles qui sont ventilées mécaniquement. On voit aussi qu'ils dépassent les 900 ppm de CO2 qui sont fortement recommandés maintenant en termes de prévention de COVID-19. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Il y en avait un avant, excusez-moi. Oui. Non. Avant, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous pouvez aller en avant, s'il vous plaît? Merci. Non. Maintenant, c'est le prochain.
Alors, on a un tout petit décalage entre ce que vous dites et du coup ici. Je pense que le plus simple, pouvez-vous nous donner le titre de votre slide? Ce sera plus simple, peut-être.
Je peux essayer, d'accord. Quand on voit en termes de ventilation et durabilité, on voit que l'installation des systèmes mécaniques, ça a changé beaucoup. Par contre, ça veut pas dire que la ventilation mécanique des écoles, c'est la solution pour tous les problèmes. Quand on voit les taux de ventilation ici, dans quelques classes en Belgique, on voit qu'il y a beaucoup de différences et on voit bien très vite qu'il y a des écoles dans lesquelles ils ont moins de 2 litres par heure par personne de ventilation. C'est très, très bas. on voit que la différence est grande et le problème, c'est que ces gens, ils peuvent penser, et probablement maintenant aussi pendant une pandémie, ils vont penser, bon, ventilation, ça va bien parce que c'est ventilé mécaniquement, mais on voit que la ventilation est très, très basse. En plus, quand on voit bien, il y a la contribution de l'étanchéité de l'air en bleu, là, et la contribution du système de ventilation en orange, on voit que la contribution de l'étanchéité de l'air est plus haute que dans certaines classes que la contribution de la ventilation. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent, ça coûte des frais de maintenir le système et en plus, ça n'apporte pas trop grand-chose à la ventilation totale de ces classes. Alors, ça vaut la peine de vérifier. En plus, ce qu'on voit aussi dans nos études, c'est que, par exemple, cette classe qui a le meilleur taux de ventilation, la dame, la maîtresse, elle avait éteint le système de ventilation parce que, on voit ici au droit, on a mesuré beaucoup de nuisances acoustiques liées au système de ventilation. Ça dépassait en fait les 35 décibels et c'est pour ça que les gens, ils éteignent leur système de ventilation. Et quand on fait ça, évidemment, dans une classe, c'est vraiment pas une bonne idée.
Ah bah oui,
par contre, on voit toujours... oui, par contre, on voit toujours encore que la minorité des écoles a encore des systèmes de ventilation. Évidemment, il y a des différences entre des différentes cultures de ventilation en Europe. Plus qu'on va au nord, plus que les gens, les bâtiments sont bien étanches à l'air, bien isolés et ventilés mécaniquement depuis des années. Tant que nous, dans nos régions, on n'a pas l'habitude. C'est plutôt la prestation énergétique qui nous a plus ou moins poussé d'installer des méthodes mécaniques à ventiler. Et c'est vrai qu'il faut que les gens apprennent pourquoi il faut ventiler, c'est quoi le but de ventiler. Prochain, s'il vous plaît. Et parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec le dessin des systèmes de ventilation, on a organisé un sondage chez 144 architectes belges pour leur demander quelles sont leurs connaissances et la compréhension de l'air intérieur. Parce qu'on croit que si eux, les architectes, les professionnels du bâtiment, ils comprennent mieux pourquoi ventiler, pourquoi construire sain, ils peuvent informer leurs clients et créer un changement. Mais quand on leur demande quels sont les problèmes qu'ils voient avec les systèmes de ventilation, eux aussi, ils disent que la plus grande partie, ils disent qu'il y a en effet des nuisances acoustiques et que ça arrive dans beaucoup de leurs projets. Suivant, s'il vous plaît. Excusez-moi. En termes de polluants, parce que le CO2, c'est pas tout, et on a déjà entendu des autres intervenants aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres polluants, on voit aussi que le capter le CO2 dans des classes, c'est aussi un avantage pour avoir un peu d'estimation de certains autres polluants, surtout ceux qui sont plutôt volatiles, comme les COV, le formaldéhyde, et surtout ceux qui sont liés aux sources intérieures. Parce que plus qu'il y a de ventilation, plus qu'ils sont évacués à l'extérieur. Et on voit que même les particules fines, leur concentration diminue quand on passe à une meilleure ventilation. Et aussi les autres polluants, on voit qu'ils diminuent en concentration quand la ventilation est mieux. Prochain. Mais quand même, on voit encore que la minorité des écoles est ventilée mécaniquement et ça se voit aussi dans la littérature scientifique parce que là il y a plein de publications sur des façons comment on peut améliorer la ventilation naturelle par ouverture de fenêtres et c'est ça un des problèmes qu'on fasse maintenant c'est que avec le SARS-CoV-2 avec le COVID la ventilation est vraiment importante les écoles qui sont ventilées mécaniquement. OK, il y a un système, mais les autres, ils font vraiment que les gens apprennent comment mieux ventiler, à ouvrir les fenêtres dans une façon efficace. Prochain. Nous aussi, en Belgique, on a fait plusieurs interventions comme ça pour apprendre les gens En termes de polluants comme les pathogènes virales, comme le SARS-CoV-2, qu'il faut bien apprendre à ventiler. On a fait des projets de démonstration avec le gouvernement flamand. On a fait un site web pour les écoles. On a fait organisé des cours pour des gens qui sont responsables pour la prévention dans les écoles. On a aussi développé des fichiers pour des crèches, pour des locaux où les enfants se trouvent, comment pour informer les gens pourquoi et comment il faut ventiler.
Oui, parce
et non
pas seulement pour les virus. C'est ce que vous disiez, hein, finalement, oui. C'est l'information qui est la plus importante, hein, l'information envers les usagers. Donc, vous le disiez, plein de documentation. Je suis désolée, je vous accélère un tout petit peu parce que on a d'autres discutants. Alors, peut-être quelques mots, justement, pour terminer votre présentation. Je voulais pas vous couper trop non plus. Peut-être il y avait des éléments que vous vouliez donner en conclusion de votre présentation. Donc on le voit, l'élément très important des typologies de ventilation, le fait aussi d'informer, puisque c'est vraiment l'usager qui est au cœur de l'école, que ce soit les maîtresses, les élèves, il faut apprendre à bien ouvrir, bien aérer et à faire attention, c'est cela ?
Oui, en effet, il faut apprendre aux gens de mieux comprendre le contexte et le problème pour que la situation s'améliore. Et c'est un peu, je pense, partout en Europe que nous, dans le monde scientifique, on connaît les problèmes, on sait ce qu'il faut faire, mais tant que il nous faut vraiment que tout le monde comprenne le problème pour que on peut améliorer la situation.
Oui, et puis typiquement des travaux comme ceux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, comme les travaux que vous menez aussi et que vous nous avez présentés à l'instant, sont essentiels justement pour pouvoir avancer sur ces sujets. Je vous remercie beaucoup, madame. Je suis désolée de vous avoir légèrement coupé sur la fin de votre présentation. Merci de rester avec nous, hein, bien sûr. Du coup, je me tourne justement vers madame Hulin et monsieur Stéphaniac. Alors, Marion Hulin, je vous le rappelle, vous êtes épidémiologiste, j'ai réussi à le dire du premier coup, en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs à Santé publique France. Et monsieur Stéphaniac, vous êtes responsable métier, hygiène, santé, direction technique et performance exploitation. Vous travaillez chez Filiance. Donc Filiance, on le rappelle, c'est un organisme de bureau de contrôle. Et donc, vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots chacun donc vos missions et en quoi ce que nous venons d'entendre fait écho à vos travaux. Marion, peut-être pour commencer, honneur aux dames.
Merci beaucoup. Effectivement, à Santé publique France, je travaille dans une direction qui a pour objectif d'apporter des éléments et des connaissances utiles sur la santé en lien avec les conditions de vie de la population. Donc, dans conditions de vie, il y a aussi la partie sur le travail, pour essayer d'orienter les actions de prévention et puis éclairer les pouvoirs publics dans leurs décisions liées à ces enjeux-là. Et donc, moi, plus particulièrement, je m'intéresse à la problématique de la qualité des environnements intérieurs en essayant d'évaluer l'impact de la qualité de ces environnements sur la santé des populations et puis notamment des travaux en cours sur la problématique des écoles et la santé des enfants.
D'accord, donc ça vous permet d'avoir un état des lieux en fait complet, les travaux de l'OQAI.
Ah oui, c'est vraiment des travaux qui sont très importants pour nous, puisqu'effectivement, pour pouvoir faire le lien, enfin pour pouvoir évaluer l'impact sur la santé de la qualité des environnements intérieurs, il nous faut des données. Et c'est vrai que contrairement à l'air extérieur, pour lequel on peut disposer des informations des associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air, les ASCA, via leurs stations de mesure qui sont disposées un petit peu partout, on n'a pas ce système-là en continu pour la problématique de l'air intérieur. Et donc ces photographies qui sont produites par l'OQAI sont indispensables pour nous, pour réussir à avoir des connaissances sur le lien entre l'exposition et puis la santé des populations.
Donc avoir ces connaissances, pouvoir rédiger des recommandations et puis derrière pouvoir influencer aussi les décideurs publics en termes de réglementation.
Tout à fait, influencer, c'est de donner des éléments qui permettent de prioriser. Objectif. Donc ça c'est un vœu pieux, mais on aimerait aller vers ça pour les différentes choses. Et puis vraiment avoir des données probantes et objectives sur cet impact pour éclairer au mieux les pouvoirs publics.
Alors justement, monsieur Stéphaniac, alors vous ne faites pas partie des pouvoirs publics, hein, mais l'idée, voilà, vous êtes Filiance, donc peut-être en quelques mots, un organisme de bureau de contrôle. C'est ça ?
Oui, c'est une fédération, donc on retrouve plusieurs organismes de contrôle, tierce partie, pardon. Et donc du coup, nous, on applique la réglementation de la surveillance de la QEI dans les ERP. Donc tous les travaux qui sont faits par le QEI et par le CSTB sont vraiment à l'origine de la réglementation actuelle de la surveillance de la QEI. Donc aujourd'hui, on réalise ça depuis fin 2011, début 2012. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord une évaluation des moyens d'aération, donc voilà, qui est vraiment essentielle. On l'a bien compris depuis le début de la matinée. Et ensuite, on réalise deux séries série de mesures sur trois polluants. Donc une série de mesures qui est faite pendant une période de chauffage et une hors période de chauffage sur trois polluants, donc le benzène, le formaldéhyde et le CO2. Voilà, donc ça, on fait ça depuis 2012 à peu près, et en 2015 il y a eu un changement de réglementation et nous avons les établissements ont la possibilité cette fois-ci d'appliquer un guide INERIS dans lequel on va retrouver donc des questionnaires qui sont dédiés aux chefs d'établissement, aux professeurs, aux agents de maintenance par exemple, et ensuite on vient établir un plan d'action pour pouvoir venir améliorer cette qualité de l'air. Donc on va faire des actions sur la ventilation, sur le choix des matériaux, etc., etc.
Donc c'est ventilation, choix des matériaux, mais aussi conseil, dans l'usage aussi de ces matériaux et de
tout
ces...
Tout à fait, oui. Donc le guide est vraiment presque autoporteur, c'est-à-dire qu'il y a un questionnaire et qui sont accompagnés de plein de conseils, de bonnes pratiques. Donc la réglementation actuelle, ils ont le choix, les établissements ont le choix entre faire la campagne de mesure sous accréditation ou faire le questionnaire avec l'autodiagnostic du guide INERIS, mais toujours accompagné de l'évaluation des moyens d'aération. Ça, c'est automatique.
Ça, c'est essentiel. Alors, aujourd'hui, voilà, l'enjeu, on l'a évoqué aussi avec Madame de Sonville, dans le malheur qu'est cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il fallait encore plus accentuer la prise de conscience d'ouvrir ses fenêtres. Donc, finalement, après la crise sanitaire, les choses s'accélèrent dans la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Vous le ressentez ? Quelle piste de développement envisagez-vous, Madame Hulin ?
Alors, effectivement, c'est vrai que la crise sanitaire a permis de mettre en avant cette problématique-là. C'est quelque chose qu'on attend pour les personnes qui travaillent sur la qualité de l'air intérieur depuis de nombreuses années. Ce qu'on espère, c'est que cette prise de conscience ne s'arrête pas avec la fin de la pandémie qu'on espère également, mais qu'elle aille au-delà et que les gens prennent conscience qu'on a aussi une répercussion sur d'autres aspects de santé, mais aussi sur le bien-être et sur l'apprentissage des enfants. Et donc nous, un des enjeux sur lequel on travaille et sur lequel on collabore aussi avec l'OQAI, c'est pour pouvoir mieux évaluer, comme je disais, l'impact de la qualité de l'air des écoles sur la santé des enfants et permettre de sensibiliser les différents acteurs. Alors quand je parle des acteurs, il y a bien sûr, on en a parlé, des élèves, des enseignants, mais il y a aussi les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire, pour qu'ils prennent conscience de l'impact que peuvent avoir les choix au niveau des bâtis scolaires sur la qualité de l'air et donc sur la santé des enfants.
Oui, et puis l'impact, et puis aussi d'avoir cette nécessité de faire attention à bien renouveler peut-être les éléments de technique qu'il y a, prendre conscience de ça. Est-ce qu'on parle beaucoup justement de... Faut pousser à avoir des détecteurs de CO2, des choses comme ça dans les écoles ?
Alors, les détecteurs de CO2, elle a un double avantage effectivement pour permettre d'orienter un petit peu ces techniques de renouvellement d'air. C'est aussi une sensibilisation des enfants qui vont aussi apprendre aussi à le faire après chez eux. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a dans le choix des matériaux, il y a dans le choix des peintures quand on va faire les rénovations des bâtiments. Il y a un enjeu qui me semble vraiment aussi important, c'est que dans le contexte du changement climatique, il y a des grands plans d'investissement qui sont prévus pour la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments publics. Et c'est vraiment important que la qualité de l'air intérieur soit prise en compte dans les réflexions et dans la mise en œuvre de ces travaux pour pas qu'on ait des impacts négatifs en termes de qualité de l'air sur ces travaux de rénovation.
Oui, il faut aussi parler de résilience du bâtiment parce que voilà, les changements climatiques sont devant nous, on le sait, donc il faut vraiment prendre en compte ce critère-là également. Alors, monsieur Stéphaniac, vous aussi, cette prise de conscience des bonnes pratiques, on le disait, ça, dans le choix de certaines écoles d'avoir des détecteurs, enfin voilà, il faut pouvoir avoir des actions concrètes en termes techniques, technologiques. Voilà, il y a des recommandations que vous pouvez aussi mettre en avant.
Et beaucoup plus que de la simple mesure, j'allais dire. La simple mesure est vraiment parfaite aussi, puisqu'on a à notre disposition donc un arsenal de valeurs guides et de valeurs limites. Donc c'est très important. Mais il faut pouvoir accompagner les établissements dans aussi la transformation de leur qualité de l'air intérieur, la transformation de la ventilation et puis l'accompagnement des bonnes pratiques. Et c'est vrai que la pandémie actuelle a accéléré un petit peu le mouvement, j'allais dire, ça a remis un petit peu la ventilation au centre du débat et ça, c'est vraiment parfait. Donc, on est amené de plus en plus à faire dans l'accompagnement de la mesure directement sur du CO2 ou d'autres polluants avec du monitoring, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très bien.
Alors, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour faire avancer encore plus, accélérer cela ? Ce sont des décisions politiques ? Ce sont, vous le disiez, au niveau des mairies ? Est-ce que c'est... comment faire pour accélérer encore ? C'est la question piège, peut-être.
Bah, je pense qu'il y a plusieurs, levées d'action. Il y a la prise de conscience. Je pense qu'il y a de plus en plus d'études qui commencent aussi à mettre en relation. Donc, l'OQAI avait notamment participé à l'évaluation socio-économique du coût de la qualité de l'air pour montrer finalement l'impact sur la santé et l'impact économique. Et donc, finalement, le caractère, alors je suis désolée d'utiliser ce terme, mais le caractère rentable, entre guillemets, de ces travaux d'investissement qui permettent de protéger la santé des populations. Et puis après, je pense qu'effectivement, il faut de l'ambition de mettre en place des nouvelles mesures et de prendre en compte. Et c'est ça la difficulté. L'intégralité des facteurs qui peuvent influencer sur la santé des enfants en parlant d'écoles favorables à la santé. On a parlé de beaucoup de qualité de l'air aujourd'hui, mais les mesures qui ont été faites par l'OQAI ont aussi des mesures au niveau acoustique, au niveau de la luminosité, pour les prendre dans leur globalité et aller plutôt vers des environnements qui sont favorables à la santé et à l'apprentissage des enfants.
Merci beaucoup. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose, M. Stéphaniac ?
Oui, au-delà de l'aspect financier et de la transformation au niveau matériel, c'est vrai que le changement du comportement est vraiment essentiel aujourd'hui, parce que sans ce changement de mentalité, on n'aura pas de toute façon derrière...
Donc changement de comportement des usagers,
oui.
des décideurs aussi, pour se rendre compte de tout ça. Peut-être, quelles recommandations j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Dassonville. Si vous deviez choisir une grande recommandation, je l'ai fait aussi pour le logement, voilà, dans les écoles, pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Je crois que c'est toujours un peu la même, mais...
Toujours la même.
Toujours la même ?
En AR, pendant les récréations, oui.
Oui.
C'est la grande recommandation à avoir.
Je pense la prise en compte des aspects sanitaires dans le choix des matériaux.
Oui. Aussi les deux leviers d'action pour améliorer la
Oui, matériaux au sens large.
Matériaux, mobilier au sens large. Alors peut-être une question. Est-ce que nous avons des questions Oui, elles arrivent. Nous avons des questions. Alors, une question pour Madame Dassonville. Est-ce que les résultats de la campagne école ont été transmis aux écoles elles-mêmes ? Tiens, oui, c'est vrai que c'est intéressant.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Et du coup, vous allez, elles ont réussi à prendre conscience et à essayer de changer leur comportement ?
Pour tout ce qui était école publique, nous avons transmis donc les résultats aux collectivités. Et pour les écoles privées, aux gestionnaires des établissements. Après, certaines sont revenues vers nous pour en savoir plus. On n'est pas allé plus loin.
Après, c'est plus votre travail, mais c'est vrai qu'au moins vous avez pu leur faire prendre conscience de tout ce qui pouvait être important. Alors, j'ai une autre question pour Claire encore, pour vous, madame. Vous avez travaillé sur le LINDAN.
Oui.
Alors, peut-être nous en dire plus. Alors, qu'est-ce que le LINDAN ?
Donc, le LINDAN, c'est un insecticide qui a été très utilisé depuis les années 40 et qui est interdit en France depuis 1998. Donc, utilisé en agriculture. Et puis, comme je vous le disais, dans le traitement du bois aussi, dans les bâtiments. Et puis en tant qu'antiparasitaire humain aussi. C'est un polluant organique persistant. Donc il est très rémanent.
D'accord.
Voilà. Et donc on le détecte toujours et on le quantifie toujours dans l'air, dans les prélèvements d'air et dans les prélèvements de poussière déposée. Alors on a recherché les déterminants du LINDAN. Les déterminants, on a tenu compte à la fois de l'air, des concentrations dans l'air et dans la poussière. Donc on a recherché les déterminants de la masse de LINDAN. Et on voit que ces déterminants, ce sont l'ancienneté du bâtiment, donc le bâti ancien, effectivement. Il y a plus grande probabilité qu'il y ait eu des traitements dans ce bâtiment avec ce composé. La proximité à un territoire agricole à moins de 2 km. Donc là, c'est vraiment l'usage en agriculture qu'on revoit. Et puis, on a un impact. Alors, la présence du système de ventilation diminue les concentrations.
Voilà. Alors, j'ai une question à l'ensemble de nos intervenants. Vous allez pouvoir m'éclairer. Faut-il s'attendre à une évolution de la loi, type de nouvelles substances et ou diminution des VLR, VGAI ? Est-ce que, en tout cas, peut-être sur la première partie, est-ce qu'on peut penser à une évolution de la loi ? Alors, on sait que dans la prochaine réglementation environnementale sur les bâtiments neufs, il y a des travaux qui sont faits, etc. Mais bon... Au-delà de ça, est-ce que vous avez peut-être vent de nouvelles évolutions à venir ?
Alors, je pense qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour répondre à ces questions.
Bien sûr.
Et c'est au ministère de répondre à ces questions. Par contre, on peut peut-être mettre en avant les souhaits de changement sur la surveillance de la qualité de l'air, notamment dans les écoles qui ont été évoqués dans le cadre du plan national santé environnement 4, qui serait plutôt orienté non pas sur comment dire, des mesures tous les 7 ans, mais plutôt des mesures à des moments clés, notamment de la vie du bâtiment, sur des moments des grandes rénovations, qui vont faire un petit peu évoluer aussi ces données qu'on peut avoir au niveau de la surveillance réglementaire. Mais je ne sais pas si les autres intervenants veulent compléter, si ils ont plus de visibilité que moi sur ces sujets-là.
Sur la réglementation actuelle, effectivement, là, on approche de la fin des campagnes sur les écoles et on devrait toucher d'autres établissements recevant du public, mais la réglementation n'est pas encore sortie. Donc, j'ai cru comprendre que c'était dans les tuyaux et qu'il y aura des présentations dès demain, mais en présentation, du ministère, mais c'est juste un projet. Hein.
D'accord.
Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre là cette semaine.
Ok. En tout cas, ce qu'on peut avancer, c'est qu'on le voit, la conscience, la prise de conscience est forte, et aussi du côté des pouvoirs publics et des collectivités locales, parce qu'il faut en parler quand on parle des écoles. Donc voilà, il y a des pas en avant qui sont importants, qui sont faits, et des mesures, toutes ces mesures-là vont aider justement à faire évoluer aussi cette réglementation, que ce soit dans la connaissance, le monitoring, mais aussi dans la réglementation sur les bâtiments neufs. Alors j'ai une question pour vous, monsieur Stéphania, qui est sur mon écran magique. Connaît-on approximativement le pourcentage d'établissements scolaires qui ont été contrôlés aujourd'hui ?
Non, je peux vous dire à peu près le nombre d'échantillons qu'on a fait globalement depuis le début de la réglementation. On a fait plus de 100 000 échantillons, enfin 100 000 points de prélèvement, filiance tout compris. Maintenant, quelle est la proportion d'écoles qui ont réalisé ? Je ne saurais pas vous dire parce que... je préfère pas dire de bêtises. Non. Mais tout le monde ne l'a pas fait, ça c'est sûr.
Tout le monde ne l'a pas fait, ouais. Ouais. Pourtant, on le répète, il y a quand même une obligation.
Il y a une obligation réglementaire, oui.
Une obligation réglementaire qui doit être avancée. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. On est pile dans les temps. Merci beaucoup à vous tous. Merci également à Marianne Stranger qui était avec nous à distance. Merci aussi de votre présentation. On a bien vu cette prise de conscience aussi européenne, cette volonté de faire avancer les choses. Donc je rappelle, j'étais avec Claire Dassonville. Vous êtes chef de projet au CSTB et vous avez coordonné cette campagne école que vous avez brillamment présenté tout à l'heure. Et nous étions également avec Marion Hulin, j'avais envie de dire encore épidémiologiste, voilà, en charge de la thématique qualité des environnements intérieurs à Santé publique France. Et enfin, Monsieur Stéphaniac, responsable métier hygiène et santé chez Filiance. Merci à tous les trois, merci à Madame Stranger et à tout à l'heure pour la prochaine session qui sera consacrée au bureau.
Les 20 ans de l'OQAI.